Le 9 novembre 2009, l'Europe fêtera le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Ce basculement du monde qui a donné naissance en 1989 à une nouvelle Europe aujourd'hui en panne d'avenir et dont le centre de gravité se déplace de plus en plus vers l'Est. Parler de l'histoire allemande, c'est parler de l'histoire de l'Europe. Et Jérôme Vaillant est justement dans le studio pour nous en parler. Il est professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université de Lille 3, directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui et des presses universitaires du Septentrion. Il est co-auteur de l'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur, sous la direction de Hans Stark et Michel Wellnachter. Il dirige la revue Allemagne d'aujourd'hui, qui vient de faire paraître son dernier numéro, dont le titre est « La mémoire de trois fondations », 60e anniversaire de la fondation de la RDA et de la RFA, enfin, ou la RFA et de la RDA, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marcherait. Et puis, le temps que j'attrape cet autre ouvrage, il a participé à l'ouvrage de Jean-Paul Kahn et Ulrich Pfeil, toujours aux éditions Septentrion, dont le titre est « Allemagne 1974-1990, de l'Ostpolitik à l'unification », et c'est le troisième volume. Alors, Jérôme Vaillant, que faisiez-vous le 9 novembre 1989 ?
Alors, le 9 novembre 1989, le souvenir n'est pas en soi très glorieux. Je me suis rendu de Valenciennes, où j'étais à l'époque enseignant, à Cologne, où j'habitais. Et le soir, un peu fatigué, j'ai regardé la télévision. Je me suis rendu compte que quelque chose se passait à Berlin, mais qui était encore assez confus. Et fatigué, j'ai regardé un film. Je n'ai plus de nouvelles de la soirée. Le lendemain matin, j'ai appris que le mur était tombé, avec toujours cette question que l'on peut se poser. Il est à la fois tombé et il était aussi ouvert, dans la mesure où, depuis l'automne 89, il était possible de contourner le mur par le biais des ambassades ouest allemandes à Prague et Budapest, ou tout simplement de franchir la frontière austro-hongroise. Le mur était déjà devenu obsolète et le régime est-allemand se préparait à publier un décret sur la liberté de voyager. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités pensaient que tout se passerait de façon ordonnée, comme on pouvait l'attendre d'un peuple habitué à la discipline socialiste, et qu'une maladresse lors d'une conférence de presse internationale a eu pour effet que ce n'est pas le mur qui a été simplement ouvert, mais il a été tombé, pourrait-on dire comme cela, par les habitants de Berlin-Est qui sont simplement venus voir si ce mur dont on disait qu'il allait être ouvert un jour était déjà ouvert, puisqu'on avait dit que cela devait se faire immédiatement. Donc voilà l'événement du 9 novembre 1989. Et ayant écouté tout à l'heure le récit de M. Fleischer, on ne peut que se rappeler une chose, c'est que le 9 novembre 89, qui se prêtait admirablement à être un jour de fête nationale, puisque c'est un événement heureux dans l'histoire allemande, n'a pas pu devenir ce jour de fête nationale parce que justement il renvoie trop immédiatement l'Allemagne à son propre passé, puisque le 9 novembre 1938, c'était ce qu'on a coutume d'appeler la nuit de cristal, en fait la nuit des pogroms anti-juifs organisés par l'État. Et de ce fait, je dirais, c'est impensable que l'on puisse faire du 9 novembre une journée de fête, parce qu'une fête nationale, ça doit se fêter, même si ça peut renvoyer à l'histoire et faire réfléchir, ça ne contribue pas à faire de cette journée une journée de fête nationale. Et c'est pour ça que l'on a choisi finalement le 3 octobre comme jour de fête nationale, où l'on peut dire que le 3 octobre, il ne s'est rien passé, si ce n'est de dire que c'était le jour de fête nationale, le jour de l'unité allemande. Je dirais c'est l'événement qui crée la date et non pas l'inverse en la matière.
Il y a aussi un autre 9 dans l'histoire allemande.
Alors, c'est vrai que le 9 novembre est, de par sa charge symbolique, la journée la plus connue. Mais comme je le disais il y a un instant, le mur était déjà devenu obsolète de par l'évolution dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est une façon aussi de rappeler que le 9 novembre 89 s'inscrit dans un processus qui n'a pas commencé simplement en Allemagne de l'Est, mais qui a commencé en Pologne, s'est poursuivi en Hongrie, et qui n'était pas pensable sans l'évolution de la politique étrangère soviétique. Mais c'est vrai que si on regarde de près dans la chronologie, il y a certainement le 9 octobre qui est un lundi, le 9 octobre 89, qui est au moins aussi important et qui est peut-être la véritable date, je dirais, du renversement en Allemagne de l'Est, puisque c'est la journée de la plus grande manifestation qu'il y ait eu à ce moment-là, à Leipzig, où le régime décide d'estimer qu'il ne s'agit pas d'une contre-révolution, mais d'une manifestation du peuple dans la rue, et qu'il faut donc se mettre à son écoute. Et à partir de ce moment-là, on peut estimer que le régime est-allemand bat les bras, et en ne réagissant pas, on pourrait dire, ou de façon chilienne ou de façon chinoise, permet au fond à la révolution pacifique de s'étendre, dans l'espoir bien sûr du côté des communistes du parti SED au pouvoir qu'il y aura l'occasion d'une reprise en main, que c'est sur la base d'une conciliation et d'un dialogue avec les manifestants dans la rue qu'il sera peut-être possible de sauvegarder l'essentiel. Ça n'est pas ce qui s'est produit, et l'on peut dire alors que le 9 octobre signifie l'abandon du régime face à ses responsabilités, à ses propres yeux. Le 9 novembre, lui, c'est un petit peu comme un barrage qui, de toute façon, qui tout d'un coup est ouvert, et les événements deviennent à partir de ce moment-là incontrôlables.
Alors pourquoi les Russes ont laissé faire ?
Alors ça, je crois qu'il y a une réponse assez claire que l'on peut donner. Pour l'anecdote, le rappel peut être étonnant, mais l'histoire se fait souvent comme ça, de façon étonnante. La chute du mur est un phénomène étonnant, puisque non programmé. Gorbatchev n'a pas été prévenu de ce qui se passait à Berlin. Si moi je regardais un film à la télévision, Gorbatchev n'était... je ne sais pas s'il regardait un film à la télévision de son côté, mais il n'a pas été prévenu, il était seulement prévenu le lendemain matin. Et peut-être qu'il y aura des choses à comprendre dans ce qui s'est passé. Mais je crois que l'essentiel, c'est que Gorbatchev, à partir du moment où, en 1987, il avait décidé d'abandonner la doctrine Brejnev de la souveraineté des États socialistes, la souveraineté limitée des États socialistes. Il avait misé sur la fin de la guerre froide pour permettre, par le biais de Perestroïka et Glasnost, donc par une restructuration du système communiste, de le mettre en position de survivre, de s'adapter aux besoins du monde. Et je pense que Gorbatchev a tout simplement poursuivi cette politique avec système, avec de la suite dans les idées, soutenu en ça par son ministre des Affaires étrangères, Chevan Nartse. Il a voulu mettre un terme à la guerre froide, et mettre un terme à la guerre froide, c'était aussi mettre un terme à la situation anormale de la division de l'Allemagne. Et dès l'instant que les choses allaient dans ce sens-là, il n'a pas voulu véritablement les empêcher. En tout cas, il n'a pas voulu y mettre un terme en faisant intervenir l'armée soviétique stationnée en Allemagne de l'Est, ce qu'il aurait pu faire. Mais imaginons, sans faire trop d'histoire-fiction, que l'Union soviétique de Gorbatchev aurait décidé de mettre un terme à l'ouverture du mur. Ça aurait été faisable, il suffisait de mettre quelques chars soviétiques en position, de refermer les trous dans le mur qu'il pouvait y avoir. C'était la fin de la perestroïka, c'était la fin de Glasnost, c'était la fin donc de l'espoir de transformer le communisme avec l'aide financière des pays occidentaux et avec l'accès aux technologies occidentales. Donc il a laissé faire, étant peut-être dans l'affaire moins maître de la situation qu'il n'a pu vouloir en donner le sentiment pour sa part. Il a plutôt été poussé par les événements. Rapide rappel historique, quand François Mitterrand se rend à Kiev auprès de Gorbatchev en décembre 1989, Mitterrand revient avec la conviction, et je ne pense pas que Gorbatchev ait essayé d'une façon ou d'une autre de le tromper, il en revient avec la conviction que l'Union soviétique ne souhaite pas une unification de l'Allemagne dans le chaos. Les plans soviétiques prévoient plutôt une confédération allemande conforme à des idées qui ont déjà été lancées dans les années 1950, donc ça n'est pas franchement nouveau, mais l'idée d'une confédération allemande, parce que c'est une façon de régler le problème allemand en mettant les deux États au sein d'une même confédération, donc restituer quand même l'unité nationale, tout en laissant deux États subsister l'un à côté de l'autre, où la RFA aurait eu à l'évidence pour fonction de soutenir la RDA, dont on savait à Moscou qu'elle était de moins en moins viable. Et dès l'instant que l'Union soviétique retirait son soutien militaire à la RDA. Cela a aussi pour conséquence que l'armée nationale populaire de RDA n'interviendrait pas. Et de ce fait, on peut dire, oui, l'Union soviétique avait décidé de ne pas intervenir, sans imaginer que finalement, quand même, les Allemands de l'Est iraient plus loin que ce qu'on avait attendu d'eux.
Alors, ils sont allés tellement loin qu'ils ont réunifié le pays. Alors, si on pouvait revenir sur les grandes étapes de la réunification jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je crois que les choses se font en plusieurs étapes et de façon beaucoup plus rapide que chacun ait pu le penser. L'ouverture du mur a pour effet d'amener l'Allemagne de l'Ouest à se poser la question en termes, je dirais, stratégiques. Est-ce que l'unification est possible et comment se positionner sur cette question dès l'instant que cette potentialité existe. Auparavant, on pouvait imaginer que ce n'était pas le cas. Dès l'instant que le mur est ouvert, le chancelier Kohl prend, je dirais, position dans le cadre d'un plan en 10 points, dont l'essentiel consiste à dire qu'il est d'accord pour négocier presque en urgence les conditions contractuelles d'une aide ouest-allemande à la RDA en difficulté, et puis d'aller plus loin comme son partenaire à partir du 13 novembre, Hans Modrow le propose à Berlin-Est, d'aller plus loin jusqu'à la mise en place d'une confédération. Et Helmut Kohl ajoute cet élément essentiel, nous sommes prêts à faire un pas de plus et d'aller jusqu'à la mise en place d'un ordre fédéral étatique, ce qui veut dire à ce moment-là que le chancelier Kohl estime qu'au terme d'un processus dont il n'imagine pas la durée, il faudra arriver à un seul et même État fédéral allemand, et ce sera donc la réalisation de l'unité allemande. D'ailleurs, il dit à la fin de son propos, le 28 novembre, que si les Allemands veulent l'unité, ils l'obtiendront assurément. Alors à partir de là, sans entrer trop dans les détails de la chronologie, on voit que la RDA s'effondre. Le parti au pouvoir, le parti communiste, le SED, court après les événements, il n'y a pas de reprise en main par sa part, de sa part, et finalement, à peu près au moment de Noël 89, alors que les autres États socialistes changent également de régime, on voit bien que la RDA n'est plus capable de se gérer elle-même. Elle a même d'ailleurs abandonné le 2 décembre toute idée constitutionnelle que le SED au pouvoir puisse y rester en tant que parti marxiste-léniniste de la classe ouvrière. Et à partir de ce moment-là, je dirais, la RDA n'est déjà plus ce qu'elle est. Et ensuite, les choses vont se faire en deux ou trois étapes. La première étant que les quatre puissances tombent à peu près d'accord pour dire que dès l'instant que les Allemands veulent leur unité, on ne peut pas la leur, on ne peut que la leur concéder, tout en accompagnant cette unification sur le plan intérieur et sur le plan étatique allemand, par une négociation sur les aspects extérieurs de l'unification. Mais je pense que la grande idée reprise à un social-démocrate par le chancelier chrétien-démocrate Helmut Kohl, c'est l'idée de passer aussi rapidement que possible à une union monétaire, économique et sociale, alors qui est négociée très rapidement entre les deux Allemagnes à partir du moment où les élections libres de mars 90 sont amenées au pouvoir, une majorité chrétienne démocrate et en fait une grande coalition de fait pour faire disparaître la RDA au profit de son intégration dans la RFA. Cette union monétaire est capitale parce qu'en fait elle met déjà la RDA au niveau de la RFA dans tout ce qui concerne les grands principes de la vie publique, économique, sociale et même, pourrait-on dire, culturelle, en abandonnant le Mark est-allemand pour adopter le Mark ouest-allemand, donc le Deutschmark, la RDA devient partie déjà intégrante de la RFA. Le tout est couronné par le traité d'unification de la fin d'août 1990 qui prend effet au 3 octobre. Et le tout arrive à un moment où les quatre grandes puissances, négociant avec les deux Allemagnes, sont tombées d'accord sur le règlement des aspects extérieurs de l'unification à Moscou le 12 septembre. Et s'il y a quelque chose que l'on peut dire dans l'affaire, c'est que l'unification, qui n'est peut-être pas du goût de tout le monde au départ, est acceptée par tout le monde comme étant inévitable, allant dans le sens de l'histoire, et les partenaires et alliés de l'Allemagne, de l'Ouest, voient dans l'unification, aussi évidemment une façon de surmonter la division de l'Europe, et voit aussi la possibilité d'intégrer davantage l'Allemagne unifiée dans le processus d'intégration européenne. Ça, c'est déjà réglé à Paris, au sommet de Paris du mois de décembre 89. Ça ne s'est pas fait sans tension, en particulier entre François Mitterrand et Helmut Kohl. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, la France propose un marché à l'Allemagne du chancelier Kohl. L'unification apparaîtra d'autant plus acceptable aux puissances occidentales que l'Allemagne acceptera le principe d'une monnaie unique. Donc plus d'Europe permettra à l'Allemagne de faire mieux accepter son unification.
Alors Berlin devient capitale de la République fédérale en 91. Elle joue, j'imagine, cette ville le rôle de laboratoire de la réunification. Alors combien de temps faudra-t-il à l'Allemagne pour effacer les cicatrices de cette réunification? Ça sera plus long que de détruire le mur.
Tout à fait. Je pense qu'au moment de la chute du mur et quand l'unification est devenue une perspective réaliste, tout le monde était d'accord pour dire qu'il faudrait au moins une génération pour que les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest se rencontrent sur un même pied. Alors, est-ce que c'est sur un pied d'égalité? Je serais presque tenté de dire que le fédéralisme a au moins cette vertu, c'est de permettre la diversité dans l'unité, ce qui ne signifie pas que, même si les conditions de vie devraient être les mêmes d'un land à l'autre, cette donnée la soit véritablement respectée. Aujourd'hui, force est de constater deux choses. C'est que le taux de chômage est en Allemagne de l'Est globalement, dit à la louche, le double de ce qu'il est en Allemagne de l'Ouest, ce qui est lié aussi à quelque chose qu'on ne dit peut-être pas suffisamment, c'est que la productivité est-allemande n'est toujours pas égale à la productivité ouest-allemande.
Oui, ceci explique cela.
Et ceci explique cela. Les salaires, de ce fait, ne sont pas non plus au même niveau. Et certains spécialistes estiment que les salaires ont trop vite augmenté à l'Est, alors que sur la base d'une zone de bas salaire, il aurait peut-être été davantage possible de faire redémarrer une économie est-allemande qui était bien mise, enfin qui était bien mal en point en raison de l'ouverture à la concurrence du marché mondial dès 1990-1991.
Alors est-ce qu'on peut encore parler d'Ossise et de Vessise?
Alors les termes sont utilisés aujourd'hui encore. Et je cite volontiers Richard von Weizsäcker qui en tant que président fédéral a toujours eu le sens des formules. Il était celui qui a dit un jour que tant que la porte de Brandebourg était fermée, la question nationale allemande était ouverte. À partir du moment où la porte de Brandebourg a été ouverte, effectivement, il était possible de régler la question nationale allemande. Et il a dit de façon, je pense, très réaliste et en même temps très sensible pour les évolutions dans les deux Allemagnes, que tant qu'on parlerait de V6 et de O6, l'unification intérieure au niveau des mentalités ne serait pas faite. Alors je crois qu'on peut quand même constater que si les deux termes continuent d'exister, on les utilise quand même nettement moins qu'auparavant, ce qui à mon sens signifie que le mur dans les têtes tend aussi à disparaître. Alors il y a des signes qui le montrent, si vous voulez. On peut dire que les jeunes Allemands à l'Est, qui sont nés à l'Est après la chute du mur, donc qui ont 20 ans aujourd'hui, se perçoivent quand même plutôt comme des Allemands tout court. Ils sont parfois un peu vexés quand on leur dit qu'ils sont des Allemands de l'Est. Ils ont une socialisation qui est, je dirais, pan-allemande. Et puis, les territoires est-allemands ont démographiquement, je dirais, beaucoup perdu. Puisque sur 20 ans, il y a au moins 2 millions d'Allemands de l'Est qui se sont installés à l'Ouest. Il y a par contre de jeunes étudiants ouest-allemands qui se sont installés à l'Est parce qu'il est plus facile de se loger à bon marché dans les villes universitaires est-allemandes. Alors je pense qu'il y a encore effectivement un différentiel est-ouest défavorable à l'Est où on peut continuer de dire qu'il y a de magnifiques cathédrales dans le désert sur le plan économique, comme on l'a dit au début des années 90, mais que les efforts essentiels en termes de transferts sociaux et également de mise à niveau économique ont été faits. Pour ce qui est des mentalités, ça va durer encore un petit peu. Mais pour revenir à la question du fédéralisme, il faut bien voir qu'un Saxon se jugera toujours être un peu différent d'un Bavarois ou d'un Rhénan, et qu'un Brandebourgeois ne se voit pas non plus tout à fait comme un Saxon. Donc je dirais, c'est un peu normal que des différences dans un pays de tradition fédérale subsistent de toute façon.
Jérôme Vaillant, merci. Alors, pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 9 novembre à Berlin, mais aussi les conséquences de l'événement, je vous recommande la lecture de l'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur, donc sous la direction de Hans Stark et Michel Wenachter, les deux autres ouvrages que j'ai cités tout à l'heure, et puis aussi Pierre Verluise, 20 ans après la chute du mur, l'Europe recomposée aux éditions Choiseul.